OK, alors bonjour tout le monde. On va commencer avec la foule qui a réussi à braver le froid sibérien. On va aller ensemble dans un mot de prière, d'accord? Bien, Père éternel, merci pour l'Église. Merci pour ce bâtiment qui nous tient au chaud ici. Merci, Père, pour toutes les personnes qui, malgré le froid, se lèvent, se font l'effort de venir à l'Église ce matin. On te demande, Père, de nous bénir en assemblée alors qu'on va. Tout à l'heure, on va voir ensemble la résurrection. Quel passage absolument extraordinaire. Père, je te demande de m'aider à être concentré, à être bien disponible malgré les petits pépins ce matin. Je te prie, Père, de bénir ce temps où nous réfléchissons sur la formation de disciples ensemble. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Bon, alors, bienvenue tout le monde. Je m'appelle Yannick Etier. On est dans le cours Formation de disciples. On complète la leçon 2 ce matin. Et puis, on fait la leçon 3 qui est plus courte, un petit peu plus brève. Donc, on devrait être en mesure de couvrir toute notre matière ensemble ce matin. Alors, on commence avec des définitions. Définition de ce que c'est un disciple, puis définition de ce que c'est la formation de disciple. Moi, je vais vous demander de réfléchir avec moi ce matin. Vous demander de réfléchir avec moi ce matin à savoir si les définitions que je vous présente sont bibliques. D'accord? Avant de réfléchir à savoir si elles sont fonctionnelles, n'hésitez pas à challenger les définitions. Il n'y a pas de définition dans la Bible sur ce que c'est un disciple. On a des situations où Jésus va nous donner des critères pour être un disciple. Il va nous donner des qualifications de ce que c'est un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui est prêt à tout abandonner, qui est prêt à subir les plus grands renoncements, même sur le plan relationnel, pour pouvoir suivre Jésus. Donc, on a des choses comme ça, mais nulle part on a une définition vraiment de ce que c'est un disciple. Après ça, on pense à d'autres passages. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Un disciple, c'est sûrement quelqu'un qui apprend à imiter, à mettre en pratique. Donc, il y a toutes sortes de choses. Mais je vais vous lire la définition qu'on a dans les notes. Si vous avez besoin d'une copie des notes, il y en a à l'arrière sur une table. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à la liste d'envoi, simplement envoyez un courriel au secrétariat de l'Église. Vous trouvez l'adresse courriel dans le bulletin. Et puis, on va vous ajouter à la liste d'envoi. Donc, définition d'un disciple de Jésus-Christ. Un disciple de Jésus-Christ est une personne qui a reconnu son état de perdition éternelle et qui a reconnu que la foi en Jésus-Christ seule peut la sauver. C'est une personne qui consacre à présent le meilleur de ses énergies à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ et qui a saisi l'importance de la grâce dans sa vie chrétienne. Enfin, c'est une personne qui vit pour le royaume de Dieu et la mission que Christ nous a confiée, rejetant l'esprit de ce siècle et chérissant Christ plus que toute autre chose. Qu'est-ce que vous pensez de cette définition-là? Pardon? La troisième phrase, c'est ça qui résume le mieux. Qu'est-ce que c'est un disciple, selon vous? OK. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette définition-là? Avez-vous des commentaires avant qu'on la décortique ensemble? On la prend phrase par phrase pour vous réveiller un petit peu. Un disciple de Jésus-Christ est une personne qui a reconnu son état de perdition éternelle et qui a reconnu que la foi en Jésus-Christ seul peut la sauver. Donc, ça revient à, je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, on a parlé qu'avec Jésus, il y a des stades. Lorsqu'on veut faire de la formation de disciple, on doit premièrement s'assurer qu'on n'est pas en train d'essayer de faire d'un disciple un pré-disciple. On l'a qualifié comme ça la semaine dernière. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas fait le choix déjà, qui n'a pas reconnu certaines choses, si j'essaie de faire de lui un disciple, il manque quelque chose. Là. Il manque probablement la nouvelle naissance, il manque l'Esprit de Dieu, d'accord? Donc, c'est ma première condition. Un disciple de Jésus-Christ est une personne qui a reconnu son état de perdition éternelle et qui a reconnu que la foi en Jésus-Christ seul peut la sauver. Si vous essayez de faire un disciple avec quelqu'un qui n'a pas reconnu ça, vous êtes mal pris. D'accord? Maintenant, ça pose des questions. Je pense à Jean-Paul, qui est impliqué beaucoup dans le contexte de la famille, tout ça. Bien, on cherche à faire des disciples avec nos enfants avant qu'ils reconnaissent ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On a à cœur de voir nos enfants devenir des disciples de Jésus-Christ avant qu'ils n'arrivent là. Mais en même temps, comme parents, je dois accepter, à moins que je serais dans une autre dénomination, dans une autre confession de foi qui baptise les enfants, même chez les protestants, n'est-ce pas? Puis que je présume qu'ils font partie de l'Alliance. Mais je dois accepter le fait que mon enfant va y avoir un moment où il va devoir prendre une décision. D'accord? Ça veut dire, si je vais concrètement avec les enfants, il y a une tension. Le parent veut que son enfant devienne chrétien parce qu'il veut faire de lui un disciple. Puis l'enfant est très malléable lorsqu'il est tout petit. Souvent, par rapport à des idées comme ça, il veut adopter la foi de ses parents. Il peut faire bien des professions de foi. Mais est-ce qu'il a reconnu vraiment son état de perdition? Est-ce qu'il a reconnu que son salut est en Jésus-Christ seul? D'accord? Puis lorsqu'on parle de reconnaître, on ne parle pas simplement intellectuellement. Je pense que c'est particulièrement vrai là, dans la formation de disciples avec nos enfants. En tout cas, moi, pour ma part, mes deux enfants, bien avant de donner leur cœur à Christ, sérieusement, comprenaient intellectuellement. Donc, reconnaître, c'est reconnaître mon besoin, c'est l'accepter, c'est l'embrasser. D'accord? Donc, il ne s'agit pas simplement de dire... Puis je ne sais pas là, pour les parents qui ont vu des enfants passer le bas âge, là, mais dans notre expérience à nous, assez tôt, les enfants reconnaissaient que cette vision du monde-là est celle qui, excusez-moi l'anglicisme, qui fait le plus de sens, d'accord? Celle qui explique mieux notre existence dans l'univers, l'existence de cet univers-là. Mais ça, ça peut rester juste là, d'accord? Donc, on parle de plus que ça. Alors, je vais juste le répéter là, parce que c'est pas dans les micros, là. C'est pas enregistré. Spécialement avec nos enfants, c'est vrai. D'accord? Nos enfants peuvent accepter l'idée qu'ils ont besoin d'un sauveur puis que ce monde-là a besoin d'un sauveur. Là, je suis beaucoup dans la vision du monde. D'accord? Donc, nos enfants vont adopter. Est-ce que ça va lorsque je parle de vision du monde? Vous me suivez? Faites ça si c'est non. Ça va? OK. Donc, dans la vision du monde, ils vont s'associer à ça. Ça va assez bien. Maintenant, est-ce qu'ils acceptent de soumettre leur vie à Christ, de soumettre leur vie à Dieu? Est-ce qu'ils acceptent qu'il y a un seul Dieu, puis que ce Dieu-là, dans le fond, comme quelqu'un me le disait dernièrement, la personne me disait, finalement, on n'a pas le choix. On n'a aucun choix. Si on est bien informé, on a zéro choix. Parce que j'ai le choix entre être damné pour l'éternité ou me soumettre puis aller avec lui pour l'éternité. Fait que finalement, j'ai pas de choix. Parce que l'autre choix est insensé, tu sais. Donc, j'ai aucun choix. Je ne suis pas appelé à choisir, tu sais. Fait que ça, je pense que c'est la lutte. Puis je pense que c'est particulièrement vrai chez nos enfants, dans le sens que si je commence à parler du Seigneur avec quelqu'un qui ne vient pas d'un milieu, même chrétien nominal, d'accord? Même quelqu'un là, qui serait allé, admettons, dans l'Église catholique pendant toute son enfance, tout ça, puis c'est pas vraiment sa foi, mais en même temps, il y a des idées, il y a des concepts sur Dieu qui ont été placés. Dans ce cas-là, déjà, c'est plus simple. Mais si je parle de quelqu'un qui est à l'extérieur de ça, ce qui est la majorité maintenant de nos contemporains, particulièrement chez les jeunes, Mahomet, Jésus, puis tout, là, ils ne font même pas la différence entre tout ça. Ils n'ont pas cette vision du monde-là. D'accord? Alors, dans leur cas à eux, toute la vision du monde est à adopter. C'est pour ça qu'on va parler comme des fois un peu de pré-évangélisation. Pour eux, leur arriver, puis leur dire... Ben, si tu te retrouves devant Dieu, puis Dieu te demande pourquoi je devrais te laisser rentrer au ciel. Je ne sais pas si tu existes. Si tu existes, j'imagine que tu es parfait, donc tu es amour. Je ne sais même pas pourquoi tu me poserais cette question-là. Ça serait comme, si tu as besoin de poser la question, je pense que je n'ai pas besoin de toi comme Dieu. Vous comprenez? Maintenant, mon enfant, qui a été élevé dans un contexte chrétien, il a une vision du monde où il comprend qu'il a besoin de Dieu si Dieu existe, puis il a besoin du pardon de Dieu. Parce qu'il est conscient qu'il est pécheur. Ça, c'est des choses qui se placent assez tôt. Donc, on revient à notre définition. Un disciple de Jésus-Christ, c'est une personne qui a reconnu son état de perdition éternelle, qui a reconnu la foi en Jésus-Christ, que la foi en Jésus-Christ seul peut la sauver. Vous voulez faire de la formation de disciple, vous devez vous assurer de ça. D'accord? C'est pour ça que traditionnellement, on va parler d'évangélisation puis de formation de disciple. C'est pas simple comme ça, dans le sens qu'on... Je suis en train d'enseigner. Si je coupe ça trop au couteau, ce que je vais faire, c'est qu'avec celui qui n'est pas chrétien, je vais juste y annoncer l'Évangile dans sa plus simple expression. Puis quand il va passer par cette porte-là, je vais l'exposer au reste de la foi. Ce n'est pas ça que je vois avec Jésus. C'est, en fait, vous allez avoir énormément de difficultés à trouver un moment où Jésus expose juste comme l'Évangile super simple. Jésus est toujours sur des proclamations partielles de l'Évangile, beaucoup de mises en contexte social, il confronte les gens sur leur cœur. Fait qu'il va leur dire, ben, t'es pas quelqu'un de bon, regarde la preuve, c'est que t'es égoïste et tu gardes toutes les choses pour toi. J'ai juste un petit morceau de l'Évangile. Là. Tu es pécheur. C'est tout ce que j'ai sur l'Évangile. Et pas parler encore du moyen de salut, d'accord? Donc, je comprends l'idée, puis je pense qu'il y a quelque chose qu'on doit tous saisir. Évangéliser puis faire des disciples, c'est pas la même chose, d'accord? Pour faire un disciple, il faut que la personne ait adhéré à la foi en Jésus-Christ. Mais en même temps, si je tiens à faire une distinction, dans mon esprit, celui qui n'est pas chrétien, tout ce qu'il a besoin, c'est d'entendre l'Évangile. Ce n'est pas ça l'approche que je vois avec Jésus. L'approche de Jésus, c'est je vais t'exposer à ce que c'est un chrétien. Dans mon éthique de vie, dans mon style de vie, dans ma générosité, dans le plan du salut, dans l'Évangile, dans ton état de perdition, tu vas t'exposer à ma vie, ça va être des enseignements partiels, tout ça, puis oups, à un moment donné, on va essayer de rapper ça ensemble, puis on va présenter l'Évangile de A à Z. D'accord? C'est ce que je vois beaucoup avec Jésus. Un petit peu différent avec Paul, parce que Paul, on voit comme plein de situations où il s'en va vers les Juifs, il les confronte avec le salut en Jésus-Christ, puis là, tu dis, hey, c'est super précis, cette affaire-là. D'accord? Maintenant, c'est à vous de voir si vous pensez. Est-ce que vous me suivez dans ces nuances-là que je fais? Ça va? C'est à vous de voir si vous avez l'impression, quand vous vous adressez à quelqu'un, que vous avez. Je vais donner la réponse un petit peu, là, c'est pas très fair mon approche, là, mais. Si vous avez l'impression que vous avez un Juif devant vous, avec qui vous pouvez aller directement au Messie, et si vous avez l'impression que vous avez un païen devant vous qui n'a pas du tout la vision du monde biblique, d'accord? Puis selon où est-ce que vous êtes, votre approche peut être très, très, très différente, d'accord? Donc, je ne peux pas faire un disciple d'un individu qui n'a pas cru ça, mais en même temps, avec celui qui n'est pas chrétien, je peux enseigner à peu près tout sur ce que c'est la vie d'un disciple. C'est juste que moi, je dois être au clair, dans mon esprit à moi, que cette personne-là n'a pas fait un choix encore. D'accord? Donc, je vais l'exposer à la vie chrétienne. Je suis dans un petit groupe, dans mon petit groupe en mission, puis je dis, regarde, un chrétien, qu'est-ce que ça fait? Ça a son auto, mais c'est pas lui le propriétaire, c'est Dieu le propriétaire. Tu as besoin de ma voiture, tiens. Pourquoi tu fais ça? C'est complètement fou. Mais attends un peu, je vais te parler du royaume. Je vais te parler comment ça fonctionne dans le royaume de Dieu. D'accord? Puis là, je suis en train de l'enseigner. Je ne suis pas sur l'Évangile. Ça va pouvoir me conduire là. Parce qu'après ça, de là jusqu'à l'Évangile, mais regarde, Dieu le Père a donné son Fils pour moi, je peux te passer mon char, mon ami. Ça, c'est l'Évangile qui m'a enseigné ça, à prêter ma voiture, il n'y a pas de problème. D'accord? À cause de la générosité de Dieu en Jésus-Christ. C'est bon? Je continue avec ma définition. Vous m'arrêtez si vous avez des questions, des commentaires ou des désaccords même. C'est une personne qui consacre à présent le meilleur de ses énergies à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Et qui saisit l'importance de la grâce dans sa vie chrétienne. Donc, on essaie d'adresser deux choses ici dans cette phrase-là. Jésus nous dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer. » Donc, enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que j'ai prescrit. Si je veux faire un disciple, si je veux aider quelqu'un à grandir comme disciple, et que je ne le challenge pas sur sa croissance dans la sainteté, je suis désolé, je passe à côté à peu près de la moitié du Nouveau Testament. Donc, ceux qui vont vous dire, faire un disciple, c'est juste y annoncer l'Évangile, juste qu'il se repose sur la grâce, bien, il y a énormément d'impératifs que tu vas sauter dans le Nouveau Testament. Tu vas passer à côté de ces impératifs-là. Un disciple de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui consacre le meilleur de ses énergies à ressembler à Jésus-Christ. Maintenant, si je m'arrête là, c'est pas un disciple de Jésus-Christ, c'est un religieux. Si je mets le meilleur de mes énergies à ressembler à Jésus-Christ puis que je m'arrête là, je suis un religieux. J'essaie par moi-même de devenir comme Jésus-Christ. Donc, la deuxième partie de la phrase est super importante et qui a saisi l'importance de la grâce dans sa vie chrétienne. À tous les jours, moi, j'essaie d'être pareil comme Jésus. Quand je commence, je sais que j'y arriverai pas. Puis à la fin de la journée, je m'appuie sur la grâce de Dieu. Je m'appuie sur la grâce de Dieu pour qu'il me pardonne tous les endroits où je n'ai pas ressemblé à Jésus. Je m'appuie sur la grâce de Dieu pour que demain, je ressemble un petit peu plus à Jésus-Christ dans ma vie. D'accord? Puis je m'appuie sur la grâce pour savoir que si le Seigneur vient me chercher cette nuit-là, même si je n'ai pas été un chrétien parfait, parce que ça n'existe pas, des bons chrétiens, on l'a dit dimanche dernier, je m'en vais voir mon Père. Je n'ai pas d'inquiétude là-dessus parce que je suis sauvé par grâce. Donc, vous voyez, là, on prend cette tension-là dans la vie chrétienne où on ne veut pas devenir, on ne veut pas être des religieux, mais on veut poursuivre la sainteté. Donc, un disciple de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui veut ressembler à Jésus-Christ, qui met le meilleur de ses énergies à ça, mais en même temps, qui saisit bien la dynamique de la grâce dans cette marche-là. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires sur ça? Oui. J'avais 15 copies. S'il n'en reste plus... Ah! Caroline en avait besoin de deux. Merci, Caro. Oui, Basile. Super bonne question. Je vais juste la répéter pour l'enregistrement. Alors, Basile demande, est-ce qu'on devrait enseigner l'évangélisation puis la formation de disciples comme deux disciplines, deux cours différents, deux cours distincts, puisque ça semble plus être un continuum dans l'approche de Jésus? En fait, je pense que je vais répondre à cette question-là. Je crois que l'erreur qu'on fait, c'est de donner des cours d'évangélisation au lieu de donner des cours sur l'Évangile. D'accord? Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit enseigner les chrétiens sur l'Évangile, d'une part, donc si là je vais aller vers un cours d'évangélisation, dans sa plus simple expression. Si je suis avec un chrétien, puis qu'il n'est pas en mesure, puis peut-être c'est votre cas, là, c'est pas un reproche, mais il n'est pas en mesure de me présenter de manière synthétisée, puis de manière compréhensible à ses concitoyens, à ses contemporains, l'Évangile, brièvement, j'ai un problème. Cette personne-là a un problème parce que elle va toujours avoir l'impression qu'il manque des pièces à son puzzle, même lorsque la conversation est super ouverte. Donc, j'ai besoin d'enseigner un cours sur l'Évangile. J'ai besoin, dans une église, que les gens apprennent à être capables de faire une synthèse de l'Évangile. On a besoin d'équiper les chrétiens à être capables de voir où est-ce que nos contemporains vont challenger, pas juste dans leur attitude, mais aussi dans leur vision du monde, dans leur compréhension. Tu me dis que Dieu est bon, Dieu a dû envoyer son Fils mourir sur la croix. Ça ne fonctionne pas du tout avec mon concept de la bonté. Je comprends, tu n'as aucune notion de justice. D'accord? Donc, c'est toute la vision du monde. Donc, un cours sur l'Évangile, deux cours, trois cours sur l'Évangile. Une fois qu'on est capable de faire une synthèse de l'Évangile, après ça, je vais aller comprendre c'est quoi la dynamique de comment est-ce que l'Évangile se vit au quotidien, comment est-ce qu'on marche à la lumière de l'Évangile, justement la tension entre être religieux puis être quelqu'un qui s'appuie sur la grâce, puis... Donc, on veut équiper les gens à une super bonne compréhension de l'Évangile, puis on veut leur enseigner à faire des disciples. Puis je pense que c'est comme ça que je le dirais. Lorsqu'on présente justement l'idée qu'on va faire un cours d'évangélisation, bien, c'est ça, c'est comme si évangéliser, c'est un mot qui est là dans le Nouveau Testament, mais évangéliser, ça ne peut pas se résumer juste à annoncer Jésus. Ou, en tout cas, pas dans une synthèse de 2 minutes. Il faut que ce soit plus que ça, parce que si tu synthétises Christ et son œuvre en 2 minutes. Écoute, tu es en train de dire que Dieu rentre dans 2 minutes. Ça ne marche pas, là. Fait que c'est beaucoup plus que ça. C'est une éthique, un style de vie, des valeurs, des attributs, une personne, une œuvre à la croix. D'accord? Donc, c'est beaucoup plus que ça. C'est bon? Donc, tension, c'est quelqu'un qui consacre à présent le meilleur de ses énergies à ressembler puis qui comprend bien la grâce. Ça veut dire que lorsque vous vous investissez soit avec vos enfants ou avec quelqu'un pour faire de la formation de disciples, vous voulez être attentif à ça. Qu'est-ce qui se passe? Puis on les vit, là. Nous, on vit les tensions à tous les jours, d'accord? On se promène entre les deux. Mais ça fait partie de la formation de disciples, de voir est-ce que la personne comprend bien cela. Enfin, c'est une personne qui vit pour le royaume de Dieu et la mission que Christ nous a confiée, rejetant l'esprit de ce siècle et chérissant Christ plus que toute autre chose. Donc, c'est une personne qui comprend l'idée du royaume. Quand je vais avoir formé un disciple, il va comprendre c'est quoi vivre dans le royaume, c'est quoi l'éthique du royaume, c'est quoi la notion que l'Église fait partie du royaume de Dieu. Elle comprend sa mission. Elle comprend que cette mission-là, ce n'est pas la mission des pasteurs, des missionnaires, c'est la mission de tous les chrétiens. Et puis, elle rejette l'esprit de ce siècle. Donc, elle vit à part des gens autour d'eux. Est-ce que ça va, ça? Ou des questions, des commentaires? Donc, quand je commence à faire de la formation de disciples, la personne ne saisit pas tout cela. Mais je veux être capable de voir où est-ce que ça manque, si vraiment la personne n'a pas saisi du tout l'Évangile. Et je ne vais pas m'engager comme dans un processus, un engagement formel à dire « je vais t'aider à devenir un chrétien ». On va cheminer ensemble, tu vas prendre une décision à quelque part dans le processus. Pardon? Mais lorsque je dis « rejetant l'esprit de ce siècle », ça veut dire apprendre à discerner comment est-ce que Dieu juge le monde, où est-ce que le diable est à l'œuvre dans les valeurs sociales, où est-ce que le diable est à l'œuvre. J'avais une discussion avec des amis il y a quelques semaines, puis le gars me pose la question, il dit « Yannick, d'après toi, où est-ce que l'Église est aveugle actuellement? » Tu sais, quand tu étudies l'histoire de l'Église, à tous les siècles, tu as vu des choses que les gens ne voyaient pas. Puis un exemple comme super énorme puis facile à pointer du doigt pour nous, c'est de dire « Attends un peu, les chrétiens américains qui étaient super pro-esclavage à fond pendant longtemps, puis c'était des situations vraiment catastrophiques, on n'arrive pas à comprendre ça. Tu sais. Fait qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens évangéliques américains disent ils étaient aveugles sur quelque chose qui était énorme, gros comme ça. Tu sais. Fait que là, ils cherchaient à pointer les choses. Ils disent, ben, moi, il y a quelque chose avec laquelle je lutte depuis 20 ans de vie chrétienne. J'écoute plein de films où j'ai deux acteurs qui ne sont pas mariés ensemble et qui s'embrassent à la folie. Tu sais. Je ne peux pas faire autrement que dire qu'ils sont en train de pécher. Parce que c'est pas un médecin qui est en train d'examiner un patient et qui expose la nudité d'un patient par nécessité. Là, les chrétiens n'allaient pas au théâtre. Pourquoi ils n'allaient pas au théâtre? Parce que pour eux, c'était de la prostitution. Là, j'écoute plein de téléséries, ils ne sont pas mariés ensemble, ils sont en train, excusez-moi, je vais être vulgaire, de necker ensemble. Tu sais. Honnêtement, c'est un dilemme pour moi. Je n'ai pas pris la télé, je ne l'ai pas jeté aux poubelles, mais je suis pris avec un dilemme parce que c'est pas des valeurs. Je vous dis, moi, comme chrétien, je ne peux pas aller faire ça. Là. Vous essayerez d'expliquer ça à Esther si vous me voyez faire ça. Bonne chance. Tu sais. Fait que là, OK, à quelque part, le diable est à l'œuvre dans ça. Est-ce que je suis conscient? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je porte ces dilemmes-là? Est-ce que je les assume? Est-ce que je cherche comment moi je vais vivre et je vais fonctionner dans ce contexte-là? Je n'ai pas une bonne réponse pour le problème que j'ai soulevé dans votre esprit, d'accord? Mais c'est ça que je veux dire. Vivre à part, c'est discerner l'esprit du siècle. Paul nous dit que le diable est le père de ce siècle-là. C'est le père du mensonge. Il y a un règne sur la culture. La culture n'est pas fondamentalement mauvaise. La culture, quand je parle de la culture, je parle de tous les produits culturels. L'être humain produit des choses super bonnes et des choses super mauvaises. Puis nous, on est appelés à consommer cette culture-là, à vivre dans cette culture-là avec un discernement qui va me permettre à moi, une fois que j'ai discerné, de dire « ça, je renonce à ça. Ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est moi, je vis pour le royaume de Dieu. » Ça va? Définition de la formation disciple. Je m'excuse, on s'étire un peu, fait que je vais avancer. Définition de la formation disciple. La formation disciple est une relation intentionnelle, fondée et motivée par l'amour, dans laquelle on marche aux côtés d'autres disciples de Jésus-Christ pour nous encourager, nous équiper, nous provoquer à grandir vers la stature parfaite de Jésus-Christ et entrer entièrement dans la mission de faire des disciples. Super mauvais français, je suis désolé, mais c'est Paul mon modèle. Il fait des phrases comme ça, Paul. Moi, ça, je me sens plus paulinien quand j'écris comme ça. La formation disciple est une relation intentionnelle. D'accord? Donc, on va juste le décortiquer simplement. Vous allez prendre un café avec un ami, vous allez prendre un café avec un chrétien, vous n'êtes pas en train de faire de la formation de disciples. Wow. On peut dire que tout ce que l'Église fait, c'est de la formation de disciples. Ça ne ressemble pas à ça avec Jésus. Viens, suis-moi. Paul, il dit, viens, suis-moi. Paul va dire à Marc, sorry mon homme, pour l'instant tu ne qualifies pas, tu n'es pas utile pour moi. Barnabas, il dit, non, il y a toute une graine de disciples là-dedans, tu vois, on va faire quelque chose avec lui. Barnabas le prend, d'accord? Les deux sont intentionnels. D'accord? Donc, la formation de disciples, c'est une relation intentionnelle. Ce n'est pas casual. Ce n'est pas de temps en temps, on a pris une décision, on prend des engagements, on fait quelque chose ensemble, on s'applique à le faire. C'est une relation qui est fondée et motivée par l'amour parce que c'est épuisant de faire des disciples. Ils sont tellement décevants. Là. Ils sont tellement décevants. Là. Puis je veux dire, je comprends là, que tu, on va tous se dire, oh, ouais, mais attends un petit peu, là, tu sais même pas à quel point le Père Céleste est déçu de toi, moi, Yannick. Je le sais. Mais à un moment donné, tu es là-dedans, puis tu dis, OK, je vais m'occuper de moi. Je sais que je suis tout un cas décevant, là, mais j'ai les mains pleines avec moi, j'en ai trop des autres. T'sais. Puis je pense que je l'ai mentionné la semaine dernière, mais des fois, c'est extrêmement lourd. Tu as le goût de décrocher, tu réalises que tu as de l'amertume dans le cœur parce que tout le temps investi n'a pas donné ça. T'sais. Puis on est injuste dans le sens que les valeurs avec nos enfants, nos frères et sœurs de sang, on a tendance à y être plus fidèle que notre amour envers la famille spirituelle. Ce qui ne tient pas la route du tout dans le royaume, d'accord? Mais mes enfants peuvent me décevoir, je vais les aimer jusqu'à la mort. Puis je vais dire à mes enfants ce que ma mère m'a dit, puis elle nous a dit, les gars, il n'y a jamais rien, elle disait ça à mon frère et moi, quand on n'était pas chrétiens, il n'y a jamais rien que vous allez pouvoir faire qui va faire que cette porte-là ne sera pas ouverte pour vous. Il n'y a jamais rien que vous allez pouvoir faire qui va faire que mon cœur ne sera plus ouvert pour vous. Bien, moi, je vous dis qu'avec les valeurs du royaume, je suis censé être capable de dire ça à tous les chrétiens. Je pense que c'est clair dans les évangiles. Je pense que c'est très, très clair dans les évangiles. Mais c'est tout un challenge. Parce que quand tu commences à faire de la formation de disciples, il y a des moments où ils vont vraiment te décevoir. Tu vas être frustré, tu vas vivre de l'amertume. Si ce n'est pas dans la première, deuxième année où tu t'investis en eux, c'est 8 ans plus tard. C'est 10 ans plus tard quand ils sont censés être en train de se reproduire eux-mêmes, de faire des disciples, puis c'est n'importe quoi leur vie chrétienne. Puis il y a des gens qui arrêtent de s'investir dans la formation de disciples tout simplement parce qu'ils sont amers. D'accord? Donc, c'est une relation qui est fondée sur l'amour. Puis votre amour va être challengé. D'accord? Elle va vraiment être challengée. Dans laquelle on marche aux côtés d'autres disciples de Jésus-Christ pour s'encourager. Fait que là, c'est un petit peu la discussion qu'on avait la semaine dernière, à savoir, oui, mais moi, je vous dis, c'est pas top-down, c'est pas comme je suis le maître, vous allez m'écouter, on va faire de la formation de disciples, assoyez-vous, les petits amis. Puis en même temps, certains d'entre vous, vous disiez, oui, mais quand même, il faut qu'il y ait quelqu'un qui enseigne, qui donne une direction. C'est vrai. Mais j'observe quand même chez Paul, d'accord, que Paul lui-même est transparent. Puis plus la relation avance dans le temps, plus la ligne du maître puis du co-disciple devient de plus en plus floue, d'accord? Puis on voit Paul exposer sa propre vulnérabilité, puis son besoin de support, puis de soutien, puis d'aide. Donc, il me semble, puisque les Écritures nous disent qu'il y a un seul maître, qu'il y a un seul Seigneur, que la bonne approche, même lorsque c'est moi qui prends l'initiative, c'est quand même de dire, regardez, un des plus grands services que je vais vous rendre dans votre croissance, c'est que je vais vous exposer mes faiblesses. Je vais vous exposer mes combats. Je vais vous inviter à me reprendre, à m'encourager. D'accord? Et personnellement, c'est comme ça que j'ai été enseigné au début de ma vie chrétienne. C'est ça que j'ai toujours fait. Soit que je suis en train de coacher des leaders, soit que je suis en train de faire de la formation de disciples avec des gens qui aspirent peut-être pas à être leaders. C'est toujours ça que je fais. Dans mon cas à moi, puis vous allez le vivre, surtout s'il y a un écart, je dirais, d'années de vie chrétienne, plus les gens vous estiment, moins ils vont vous challenger. Donc, c'est vous qui devez le faire. C'est vous qui devez, de temps en temps, dire, y a-t-il quelque chose qui te préoccupe dans ma vie? Y a-t-il un endroit où tu as l'impression que je manque d'intégrité? Y a-t-il un endroit où tu dis, ça ne marche pas, puis tu n'as pas osé m'en parler? Parce que si tu le vois, moi, je ne le vois pas, tu es responsable. Dis-moi-le. Fait que je cherche ça, d'accord? Et donc, moi, ce que j'aime faire, c'est communiquer cette idée-là qu'on chemine ensemble. Parce que c'est ça que je vois chez Paul. Fait que là, je fais une distinction entre Jésus et Paul. On devrait en avoir une, tout le monde, d'accord? Mais je fais une distinction même dans la formation de disciples. Je pense que Jésus dit, je suis le modèle, puis je suis le Seigneur. Mais lui-même va donner comme modèle sa relation avec le Père, puis il va dire, imitez-moi. C'est juste qu'avec Jésus, je n'ai pas de faiblesse, d'accord? Tandis que dans le cas de Paul, lui-même va dire, je ne suis pas rendu, les gars. Je ne suis pas rendu, mais je cours pour remporter le prix. Je suis en train de courir pour saisir Christ. Je ne l'ai pas saisi encore. On bronche tous de plusieurs manières. Je ne suis pas rendu encore. Courez avec moi. Et donc, je veux faire ça quand je fais la formation de disciple. D'accord? Pour être franc avec vous, je le fais parce que je suis convaincu que je dois le faire, mais dans mon cas, moi, j'ai un autre motif qui est derrière ça. C'est que je veux enseigner aux gens qui vont pouvoir faire la formation de disciple. qui n'auront pas besoin d'être parfaits à la fin pour pouvoir eux-mêmes commencer à le faire. D'accord? Et donc, comment est-ce que je fais ça? C'est en exposant mes propres faiblesses. Parce que je suis toujours menacé du fait qu'à la fin de l'exercice, les gens vont me dire, « Oui, mais toi, Yannick, tu peux le faire. Moi, je ne suis pas capable de le faire. » D'accord? Si c'est ça la réponse que j'ai, je n'ai pas réussi à faire des disciples. Maintenant, on a tous des dons différents, on a tous des appels différents. Je pourrais m'investir dans la vie de quelqu'un qui n'a pas la même mesure de don que moi puis qui n'est pas appelé à jouer le même genre de rôle que moi. D'accord? Mais tout le monde devrait chercher à pouvoir dire, regarde, prends-moi un exemple, je vais te partager, je vais t'enseigner, je vais te partager mon expérience, mon cheminement. Puis si à la fin de l'exercice où j'ai fait de la formation de disciples, les gens disent, moi, je ne suis pas qualifié pour faire des disciples, bien, moi, je n'ai pas atteint mon objectif du tout. Avez-vous des questions sur ça? Ou des doutes? C'est bon? Oui.
Comment on peut distinguer dans le cadre de la vie de l'Église.
La vie normale, disons. Oui. Ouais. 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 Ben, ok, je vais essayer de répondre à ton point, puis il est super important. Dans un sens, là, je ne vais pas répéter toute ta question pour l'audio, je vais juste essayer de résumer à travers la réponse. Dans un sens, tout ce que l'Église fait, c'est de la formation de disciples. Tout ce qu'on fait doit servir à ça. Souvent, on fait l'erreur de ne pas le faire. OK? Fait que vous êtes, je ne sais pas, moi, vous êtes votre ministère dans l'Église, c'est de passer la mop. Puis vous dites, ça, c'est mon ministère, c'est passer la mop. Puis vous ne voyez pas qu'en faisant ça, par votre attitude, en invitant quelqu'un à le faire avec vous, en impliquant quelqu'un avec vous, vous ne voyez pas que vous pourriez vous reproduire puis enseigner des valeurs du royaume. Hop, là, il y a un problème. Vous n'avez pas compris que tout ce que l'Église fait, c'est de la formation de disciples. Donc, dans un sens, tout ce qu'on fait, donner des cours, servir, servir à la louange, servir à l'accueil, dans les finances, les classes pour les enfants, le ministère de la jeunesse, le coaching, tout ça sert à de la formation de disciples. Et on peut être intentionnel, fait que dans un sens, ma définition large pourrait fonctionner partout, je peux être intentionnel pour me reproduire à travers tout ça. D'accord? C'est vrai. En même temps, ce que je vois dans les Écritures, à travers la vie de Paul, à travers particulièrement le ministère de Jésus, c'est quand même un modèle de relation où il y a un engagement, où il y a vraiment comme un partage de ma vie dans ta vie puis ta vie dans la mienne. Donc, ça pourrait se faire. L'autre fois, Annie posait la question, elle dit « Oui, mais on pourrait le faire dans la louange. » Bien, encore une fois, oui, dans un sens, tout ce qu'on fait à la louange peut servir à ça, fait que l'équipe de louange pourrait le faire. Mais si on veut se rapprocher de ce que je vois dans la vie de Jésus avec ses disciples, bien, il va falloir que la gang qui est là soit peut-être la même gang à tous les jeudis, il va peut-être falloir qu'ils prient ensemble avant, il va peut-être falloir qu'ils parlent de comment ça a été au travail aujourd'hui. Je pense pas, tu sais, que souvent c'est comme ça que ça se passe quand on est dans le feu de l'action, puis on est en retard, il faut commencer à pratiquer, boum, 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 tu sais. Pardon? C'est un grand projet, mais ça serait faisable. Tu vois, ça serait faisable. Mais à ce moment-là, on va franchir le seuil de « je forme des disciples en étant un modèle dans mon ministère », admettons, à « je forme des disciples en entrant dans une véritable relation où ma vie est exposée à ta vie à la mienne ». Puis ça, ce morceau-là, c'est le morceau qui manque généralement dans nos églises. Puis probablement qu'il y a juste la moitié des gens ici dans la salle qui ont vécu quelque chose comme ça. Quand je ne me rends pas là, il y a beaucoup, beaucoup des passages qui parlent des rapports les uns envers les autres qui ne sont pas vécus. D'accord? Si je suis dans un petit groupe, je suis en train de m'investir dans la vie d'Élie, dans la vie de Dominique, puis on est ensemble, puis on partage, puis Dominique nous dit, Ma voiture vient de briser, il fallait que je descende à Québec pour le travail demain matin, je suis super mal pris. Puis moi, je sais, j'ai deux voitures dans le stationnement. Là, j'ai une question là, qui se pose, comprenez? Mais si on se croise juste sur l'estrade le jeudi soir, puis que ça va vite, puis qu'on est dans le feu de l'action, ça se peut que la question ne se pose pas. D'accord? Je vais prier pour toi. Wow! Merci. Peut-être que le Seigneur va parler à quelqu'un d'autre que toi. Comprenez? Donc, c'est ça. Je pense que ce serait ça la nuance que je ferais.
Est-ce qu'il y a Yannick Antoinette, la définition qui est là? Est-ce que c'est elle qui est associée à la vision de l'Église,
c'est-à-dire 500 disciples? Oui. Oui. C'est au sens de relation. C'est au sens de relation. Si tu la prends au complet, cette définition-là, à un moment donné, il faut que ça conduise dans une relation. Il faut que ce soit intentionnel. Mais en même temps, on veut comme être. On veut y aller progressivement avec tout le monde dans l'Église. Donc, dans le sondage qu'on a passé on a posé la question, est-ce que vous êtes investi dans la formation d'une des manières suivantes? Là, on était super large, là, tu sais, parce qu'on est gentil. Mais on veut vous conduire à vous investir dans des relations plus intentionnelles, d'accord? Fait qu'on continue avec notre définition. On marche côte à côte pour s'encourager, pour s'équiper, pour se provoquer à grandir vers la stature parfaite de Christ et entrer entièrement dans la mission de faire des disciples de toutes les nations. Fait que je reviens sur ta question, Paul, là, parce que ça laisse quand même un point d'interrogation dans ma tête. Si, admettons, je prends cette définition-là, puis je dis, OK, moi, je joue de la guitare. Je suis impliqué avec les Explos. Je joue de la guitare le dimanche matin pour les enfants, tout ça. J'ai décidé de me reproduire. Je vais aller prendre quelqu'un, puis je vais lui montrer comment jouer de la guitare, puis il va venir jouer de la guitare avec moi. Puis après ça, je me suis reproduit. Ma définition ici n'est pas complète. D'accord? Parce que si dans ma tête, faire des disciples, c'est faire des gens qui jouent de la guitare, on a un problème. D'accord? C'est un petit morceau. Puis là-dedans, dans le fond, la vraie valeur, c'est pas jouer de la guitare, parce que moi, je ne qualifierais pas comme disciple avant d'aller au ciel. C'est de servir, c'est de se donner. La valeur que j'ai enseignée à travers ça pour de vrai, c'est de servir, c'est de se donner, c'est d'être généreux avec ses dons et ses talents. Mais est-ce que cette personne-là, à travers ce processus-là, a saisi puis est en train d'entrer dans la mission de faire des disciples de toutes les nations? Ça veut dire d'aller annoncer l'Évangile aux non-chrétiens. Vous comprenez? Donc, ma définition, elle va vers quelque chose où j'ai un chrétien, quand je termine, là, puis je dis, hey, on a fait de la formation de disciples vraiment, puis je sens que je peux te laisser aller. J'ai quelqu'un qui a compris pourquoi il est sur la terre, il est engagé à le faire, il est en train de le faire lui-même, puis il veut aider d'autres à devenir comme ça. T'sais. C'est pour ça que, dans un sens, tout ce qu'on fait dans l'Église, c'est de la formation de disciples, mais tant que je ne me rends pas à une relation où on peut être plus transparent, plus challengeant, plus complet, je ne me suis pas vraiment rendu là encore. Ça va? Donc, c'est demandant de faire de la formation de disciples. D'accord? Puis c'est pour ça que lorsqu'on l'illustre ici comme le meilleur contexte pour le faire dans l'Église chez nous, c'est de le faire à l'intérieur d'un petit groupe. Ça se ferait à travers tous les ministères. Mais si votre ministère est très, très organisationnel, logistique, service, tout ça, il va falloir aménager de l'espace pour que ça devienne plus relationnel avec l'équipe qui est impliquée. Si ça demeure un truc où vous organisez, je pense, par exemple, à Jamais tout seul. Jamais tout seul, ils font de la formation de disciples avec les enfants. Ça, je pense que c'est indiscutable, c'est indéniable. L'équipe qui est en train de servir ensemble, si ce n'était pas un petit groupe, c'est quelque chose, Jamais tout seul, à organiser puis à livrer les vendredis soirs avec les enfants. Puis à la fin de la soirée, tu es fatigué, puis il y a des parents qui sont venus puis qui sont partis. Bien, ça se peut que notre formation de disciples se résume aux enfants. Tu sais. Mais là, si on transforme ça dans un petit groupe, wow, on passe à un autre niveau, d'accord? Puis là, on peut commencer à vivre ça ensemble, toute la gang. Fait que ça se peut que là, il y a des parents qui amènent leurs enfants Jamais tout seuls. Les parents ne sont pas chrétiens. Ils commencent à poser des questions. Puis le petit groupe, il organise un brunch ensemble. Puis, oups, on invite les parents à aller là. Et là, moi, si je suis en train de faire de la formation de disciples avec un chrétien, puis qu'on a un parent qui est venu, puis qui rentre en relation avec nous, là, on s'en va vraiment vers quelque chose de très, très complet. Là. D'accord? Fait que oui, c'est sûr que c'est exigeant de faire de la formation de disciples. En même temps, c'est ça qu'on veut faire avec nos enfants, c'est ça qu'on veut faire dans l'Église. Puis notre prière, c'est d'avoir une Église avec 500 disciples qui veulent faire ça. Ça, C'est notre prière. Ça, c'est la vision de l'Église de l'espoir. Donc, si vous me dites, OK, donc tu vises une église de 500 personnes. Moi, je pense que ça m'en prend 1000 au moins pour réussir à en avoir 500 qui font ça. D'accord? Donc, ce n'est pas une question, on veut être quelle grosseur d'église, ce n'est pas ça. C'est qu'on veut avoir une vision, un rêve qui est assez gros pour qu'on soit vraiment challengé. Si avec cette définition-là, je me présentais devant l'église et disais, on est actuellement là, en moyenne 350, 400, 410 le dimanche matin avec les enfants. Bon, mais notre vision, c'est d'avoir une église avec 100 disciples qui sont vraiment engagés dans le coaching. D'accord? Bien, honnêtement, ce n'est pas un gros, gros rêve. Ce n'est pas une vision très, très challengeante. Puis, il y a quelque part, pour moi, c'est que je ne cherche pas à conduire tous les chrétiens de la salle vers la maturité. D'accord? Donc, on dit, on est 400. Est-ce qu'on est 400 engagés dans la formation de disciples? Moi, je vous dirais qu'on est peut-être 25 % de ça environ. Quand même assez intentionnellement. Notre rêve, c'est 500 qui le font. Rendu là, on sera peut-être 700, 800. Je ne sais pas. Ça va? Question, commentaire, c'est bon? Qui marche avec d'autres disciples? Je ne reviendrai pas sur ça. J'en ai, dans le fond, on l'a développé un peu la semaine dernière déjà. Ça demeure plus une attitude, un comportement, une manière d'aborder. C'est que je ne suis pas là pour dire que je suis le maître. Je suis là pour dire que je suis un disciple en formation puis je vais exposer mes faiblesses. Et puis, on a répondu beaucoup aussi au dernier élément, on le fait en Église. Ça revient un petit peu à ce que Jean-Paul soulevait tout à l'heure. Je ne prends pas sur mes épaules le mandat de tout enseigner à quelqu'un. On vit ça en Église, il y a un paquet de ressources dans l'Église. Il faut que j'apprenne à connaître les ressources qu'il y a dans l'Église, à connaître les cours qui s'en viennent. Puis nous, on a un rôle à jouer pour vous aider, pour vous équiper dans ce sens-là, dans le sens qu'il faut qu'on vous communique vraiment tout le programme, vous les voyez venir, vous dites, hey, il y a un cours, ça, tu vas aller prendre ce cours-là, parce que ça fait 3-4 fois que tu abordes la question,